mal et de le préserver de l'orgueil afin de garantir son âme de la fosse et sa vie du coup du glaive. Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Et la Bible nous montre une multitude d'exemples. J'en ai cité quelques-uns, mais bien sûr la liste n'est pas exhaustive. Mais on connaît Jacob, on connaît Joseph, on connaît Pharaon, on connaît Salomon, on connaît Nebuchadnezzar, on connaît Joseph, on connaît la femme de Pilate, et il y a encore Pierre et Corneille. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à la lecture de la Bible, effectivement tout ça ce sont des personnages qui montent depuis très longtemps. Depuis plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, il y avait des hommes qui ont reçu des visions, des directions, jusqu'à les derniers exemples qu'on a pu citer et qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Et peut-être que le tout dernier dont on pourrait parler, c'est Jean, qui a eu la révélation de l'Apocalypse à travers de la vision. Et donc la Bible nous montre qu'il y a une multitude d'hommes qui ont expérimenté des visions, des songes, des rêves de la part de Dieu. Pour ceux qui sont un peu plus attentifs aux noms qui viennent d'être cités, j'ai fait exprès d'en mettre des croyants et des incroyants. Dans la liste, là, il nous est parlé par exemple de Nebuchadnezzar, il nous est parlé de Pharaon, il nous est parlé de la femme de Pilate. Ces gens-là n'étaient pas du tout des croyants. Ils ne croyaient pas du tout dans le Dieu de la Bible. Ils avaient leur Dieu, leur pratique. Ils étaient même plutôt idolâtres. Ils se prosternaient devant les statues, faisaient des sacrifices humains. Mais ils n'étaient absolument pas des gens convaincus de la réalité du Dieu déjà révélé à Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi insister là-dessus? Cela nous montre que les songes et les visions sont des moyens qui sont complètement indépendants de notre piété. Personne ici ne peut se dire j'ai des songes et des visions parce que je suis un visionnaire ou parce que je suis un songeur. Étant donné que même des inconvertis, des incroyants ont été sujets à des songes et des visions. Et ça doit déjà nous interpeller. Parce que cela veut dire également que ce n'est pas un signe de spiritualité. Et certains, et peut-être vous avez entendu des gens comme ça, qui, parce qu'ils ont un songe, une vision, chercheraient à vous faire croire qu'ils ont ça parce qu'ils sont plus spirituels que vous. Mais faisons attention. Les songes et les visions sont des moyens que Dieu donne à son peuple, à des hommes, à des femmes, à des inconvertis. Ce n'est qu'un moyen que Dieu emploie pour interpeller les gens. Mais ce n'est absolument pas un crédit de spiritualité. Le but, et là je vous invite à voir ça dans votre lecture personnelle et à avoir l'œil un peu plus attentif les prochaines fois, mais on s'aperçoit que chaque fois que quelqu'un est sujet à un songe, à une vision, c'est pour l'interpeller lui-même. C'est pour le faire réfléchir. J'aime beaucoup Actes. Si vous prenez Actes chapitre 10, on a deux personnages. Un incroyant, enfin un homme pieux mais qui n'a pas encore rencontré Jésus-Christ, et l'apôtre Pierre. Et les deux, chacun dans leur coin, reçoivent une vision, une révélation particulière. Et les deux reçoivent ça et réfléchissent. Ils se disent, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pierre est complètement décontenancé, lui d'ailleurs. Il est mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est même ce qu'il voit, ça le rebute. Il dit non, je peux pas. Et c'est explicitement dit que pendant que Pierre réfléchissait à la vision, alors il y a eu la continuité de l'œuvre de Dieu qui s'est passée. Mais si vous prenez toutes les visions, tous les songes, à chaque fois, c'était pour interpeller les individus. Abraham, chaque fois qu'il avait une vision, hop, il construisait un hôtel. Parce que le Seigneur s'est révélé là, mais il n'a pas dit ça pour les autres, il a dit ça pour lui-même. Et les gens qui étaient comme Nebuchadnezzar ou d'autres, les pharaons qui comprenaient pas, alors ils faisaient quoi? Ils demandaient à ce qu'on leur explique. Mais à chaque fois, les messages étaient pour leur dire hey, fais attention à toi. Exactement qu'on vient de dire. Dieu parle tantôt d'une manière, mais afin de les prévenir. afin de leur donner instruction, afin de les interpeller. Les songes, les visions que nous avons sont pour notre piété personnelle. Mon frère, tu as reçu une vision, sache que c'est pour toi. Tu as un songe, ben sache que le premier concerné, c'est pour toi. Parce que si le Seigneur se sert de ce moyen-là, c'est pour te parler toi, personnellement. Et ça, c'est très important. On verra plus tard qu'effectivement, Dieu a donné d'autres moyens pour les autres, pour l'édification de l'Église. Mais nous verrons ça justement au travers des dons spirituels. Reconnaissons même que certains songes et visions que nous pourrions recevoir ne sont pas toujours très clairs, pas faciles. Et c'est là où il faut être très très prudent. D'ailleurs, on l'avait dit déjà ça. Faisons attention avec cette dimension de l'inspiration, de la révélation par inspiration, c'est qu'il y a une dimension qui est très subjective. Donc c'est pour ça que nous devons être très prudents. Alors, quelques remarques. Quelques remarques qui sont des avertissements de la parole de Dieu elle-même. Nous sommes à Ecclésias chapitre 5, par exemple, versets 2 et 6. Il est écrit « Les songes naissent de la multitude des occupations. » Et il y a des vanités dans la multitude des songes. Faisons attention de ne pas prendre nos songes et nos rêves pour des inspirations divines. Faisons attention de ne pas prendre tous nos rêves et tous nos songes sous prétexte que je m'en rappelle ce matin que c'est forcément Dieu qui vous a parlé cette nuit. La Bible nous dit, mais oui, les songes naissent, elles prennent naissance justement de la multitude de nos occupations, de nos préoccupations. Il est fort possible que si vous avez un tracas, un souci, et ben dans votre rêve, ça se manifeste. Vous savez que quand on dort, le cerveau travaille énormément. Il remet tout en ordre. Il remet tout en ordre. Il est juste de remarquer d'ailleurs que je dirais nombreux pour les témoignages que j'ai entendu depuis des années. Mais il faut remarquer quand même que dans beaucoup de témoignages que j'ai entendus de gens qui me parlaient de leurs songes, de leurs rêves, j'ai souvent remarqué que ça n'apportait pas forcément grand-chose à ce qu'ils savaient déjà. Rappelons-nous que la notion de révélation, c'est quoi ? C'est mettre en lumière quelque chose qui est caché. C'est comprendre quelque chose que nous ne comprenions pas. Et j'ai souvent remarqué que, par les frères, les sœurs que j'ai pu entendre depuis de nombreuses années, ce n'est pas vraiment le sens de leurs songes. C'est souvent des manières imagées de ce qu'ils ressentent émotionnellement, des illustrations qu'ils vivent dans leurs rêves, ou même des situations qui leur semblent troubles, qui les préoccupent. Mais ce n'est pas, et rarement, dans la quantité de rêves que j'ai entendu de vrais rêves inspirés, et la quantité, en fait, si je fais un panel de tout ce que j'ai pu entendre, mon expérience n'est pas universelle, évidemment, je ne parle que de ce que je peux connaître et vivre, mais dans l'ensemble de ce que j'ai pu entendre, j'ai souvent remarqué que la grande majorité des songes qui interpellaient ces chrétiens et ces frères et sœurs dans la foi, n'étaient pas forcément des révélations au sens que cela apprenait quelque chose de particulier, mais c'était plutôt des illustrations, des figurations de situations qu'ils étaient en train de vivre et qui effectivement coïncidaient avec leur vécu. Pire encore, mais la Bible en parle, Jérémie, au chapitre 23, vous pouvez lire tout Jérémie 23, mais moi je vais juste vous citer le verset 32, où il est écrit « Voici, dit l'Éternel, j'en veux ». C'est un reproche qu'il fait. « J'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux. » Qui les raconte ? Vous verrez cette notion tout à l'heure. « Et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre. Ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. » Et Dieu fait un reproche à ceux qui racontent leurs songes. et qui n'arrive même pas à faire la distinction entre des vrais songes, c'est-à-dire des vrais messages inspirés par l'Esprit de Dieu, et des faux songes, ou des fausses inspirations qui sont bien dans des songes, mais qui conduisent le peuple dans l'extravagance, dans la divagation d'esprit. Un songe, un rêve qui vient de Dieu, ça nous marque.
Amen.
Ça nous marque. J'ai eu un songe. Et c'est vrai que je pourrais dire comme Paul, quand il dit, je ne sais pas si c'était si je rêvais ou si j'étais éveillé. Mais je me souviens effectivement une fois d'avoir expérimenté ce sentiment où on ne sait plus si on est dans la réalité ou dans la fiction, si c'est réel ou si c'est irréel. D'avoir vécu quelque chose de fort. Je croyais même que j'y étais, que je l'avais vraiment vécu. Même aujourd'hui, j'aurais du mal à vous dire si je l'ai vraiment vécu ou si je ne l'ai pas vraiment vécu. Quand ça vient du Seigneur, il y a quelque chose qui fait une nette différence avec juste un rêve qui nous a perturbé un peu la nuit, un petit cauchemar ou une imagination comme ça qui colle à une réalité et qui nous surprend. Quand ça vient du Seigneur, permettez-moi de vous dire que ça marque. Il y a une marque spirituelle. Ça vous marque dans votre conscience. Il y a une différence qui est vraiment notable. C'est un peu, vous savez, comme les gens qui entendent une prophétie dans l'église. « Ah, je ne sais pas si ça me concernait, mais ça m'a touché. » Et c'est pas pour toi, l'homme. Parce qu'une prophétie qui s'exprime, quand c'est pour toi, tu le sais.
Alléluia.
T'as une conviction, t'es touché, dès le premier mot, oh, tu sais que c'est pour toi, tu sais pas la suite, mais dès le premier mot, ton cœur est vivement touché. Alors bien sûr, une prophétie peut toucher d'autres personnes, on peut se sentir concerné, et dire, ah, ça m'a fait du bien. Mais quand Dieu nous parle personnellement, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, on sait quand ça nous concerne. Et quand Dieu veut envoyer un songe, une vision, vous inquiétez pas, Dieu sait très bien nous parler. Très bien nous parler. Un songe, une vision qui vient du Seigneur, marque notre cœur en profondeur. Il est forcément inspiré de Dieu, donc avec la même sainteté de Dieu. Si vous commencez à avoir des songes, des rêves qui portent à des choses ignobles ou non morales ou je ne sais pas trop quoi, ou à des visions qui ne sont pas pures, ça ne vient pas du Seigneur. Et effectivement, cela fait un travail dans notre cœur. Ce texte de Jérémie 23 nous invite aussi à faire attention à ceux qui se disent avoir des songes, des révélations à notre place. Ah, le Seigneur m'a dit! Reprenons notre schéma depuis le départ. Dieu est capable d'envoyer des songes, des visions, même à des inconvertis. Donc toi, tu me dis que tu as une vision pour moi.
Il y a
un problème. Parce que si Dieu a quelque chose à me dire, il sait le faire.
Alléluia.
Et faisons attention à ces gens qui, justement, cherchent à prendre cette place. La place de qui? La place de Dieu. Et ça va loin dans ce mécanisme-là. Ça va loin. Et faisons attention, faisons taire ces gens-là qui cherchent à prendre la place du Saint-Esprit dans votre vie. Qui cherche à prendre la place de Dieu dans votre vie. Mais ça va très loin, parce qu'il y a des gens qui sont friands de ça, parce que c'est bien plus facile d'avoir quelqu'un qu'on va consulter à notre place que de chercher la face de Dieu, n'est-ce pas? Ça nous déresponsabilise complètement, à part que c'est à l'opposé de la volonté de Dieu. Ils voudraient, allons jusqu'à la logique de ces gens-là, ils voudraient même que vous dépendiez de eux. Parce qu'ils voudraient que par eux, vous connaissiez votre vie. Ils voudraient tellement que par eux, vous réalisez qu'ils sont vraiment des gens tellement inspirés. Mais c'est dangereux. Parce que nous ne courons pas après les songes et les visions. Nous nous attachons au roi des rois. Amen.
Amen.
Et même s'il n'y a pas de songe, même s'il n'y a pas de vision, notre cœur doit s'attacher à notre droit.
Alléluia.
Vous n'avez qu'un seul Dieu. Qu'il se taise ou qu'il parle, nous nous attachons à notre Dieu. Et qu'importe, même s'il se tait, est-ce que ça change quelque chose à la bonté de Dieu? Est-ce que ça change quelque chose au fait qu'il soit mort pour nous? Est-ce que ça change quelque chose au fait que nous devons vivre dans sa sainteté, dans la pureté, dans la vérité? Rien du tout, même si Dieu décide de ne rien, même les dons, les miracles, on n'en a pas, ça ne change rien. Nous devons vivre dans l'attachement à notre Dieu. Alléluia. Et pas à quelqu'un qui aurait des visions, des songes, qui va me dire avec qui je dois me marier, quel boulot je dois faire, telle personne que je dois rencontrer ou pas rencontrer. Mais ça va loin, vous savez. Et nous devons être vigilants. Alléluia. La Bible nous dit, et nous aussi en tant que chrétiens, la Bible nous dit qu'à la fin des temps, les hommes se donneront une multitude de faux prophètes, d'enseignants, parce qu'ils auront envie d'entendre des choses agréables. Et il y a des gens qui ont envie d'entendre des choses qui les flattent. Ah, Dieu m'a parlé. Et comme on est dans une société où il faut du résultat, il faut du chiffre, il faut que ça touche, il faut qu'il y ait de l'émotion, alors on va essayer de créer ce genre d'ambiance-là. Même si Dieu ne nous parle pas, soyons attachés à lui. Amen.
Amen.
Alors faisons attention, parce que beaucoup, ou plusieurs, pardonnez-moi, parleront de révélation, ou parleront, oseront, auront la témérité, l'audace de vous parler de révélation pour ce qui ne concerne qu'en fait qu'une simple conviction personnelle qui est influencée par leur propre désir que vous les reconnaissiez comme étant des gens inspirés, des gens spirituels. Mais il n'en est rien. Il ne cherche qu'à vous tromper. Il ne cherche qu'à vous séduire. Il ne cherche qu'à vous substituer de la grâce de Dieu. Et c'est à l'opposé de la volonté de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est pas que nous dépendions d'un homme. Dieu ne vous rend pas dépendant d'un pasteur. Dieu ne vous rend pas dépendant d'une église. Dieu ne vous rend pas dépendant d'une personne. Dieu veut que vous soyez dépendant de qui ?
De lui.
De lui-même. De lui-même. Et vous serez des vrais chrétiens le jour où vous aurez cette intimité, cette relation, cette conviction, cette intimité. Alors oui, on vit ça, c'est ça la priorité. Après, on a tellement de joie de se retrouver, on a tellement de joie de partager la parole de Dieu, on a tellement de joie de partager la communion fraternelle, oui. Mais nous dépendons de Dieu et de lui seul.
Amen.
Et quiconque chercherait à nous apprendre un autre terrain que celui-ci, alors nous devons le rejeter. Faisons attention. Parce que nous sommes dans ces temps de troubles. Nous sommes dans ces temps de la faim. Nous sommes dans ces temps de faux prophètes. Et depuis toujours, les hommes ont toujours essayé de connaître l'avenir. Depuis toujours, hein. Les hommes ont cherché à dire, ah, qu'est-ce qui va se passer ? Et je crains que, de temps en temps, dans nos milieux évangéliques, nous ayons établi ce que j'appellerais des prédicteurs évangéliques. Le monde a ses voyants, le monde a ses gourous, le monde a ses médiums, les milieux religieux ont leur médiateur, leur intercesseur, je ne sais pas comment on appelle ça, leur intermédiaire. Et dans certains milieux évangéliques, certains ont leurs prophètes qu'on va consulter pour connaître la pensée de Dieu. Danger. Danger. J'ai eu aussi une fois cette expérience, j'étais jeune converti. J'ai eu l'occasion de partir et voilà, une sœur en Christ, ah viens, je vais te rencontrer un pasteur, il reçoit des choses de Dieu pour les gens, on va le voir. Bon, je vais l'accompagner. Alors bien sûr, il n'y avait pas tout ce qu'on peut voir chez un médium, un astrologue, je sais pas. Mais c'était pareil, mille excuses. Il a prié, hein. Il dit oui, alors tu auras ça, ça, ça. Ouais, c'est facile, il m'a dit tu serviras le Seigneur et tu seras marié. Avec la meilleure des femmes. Donc là, je lui dis ouais, quand même, là, c'est formidable. Mais oui, mais vous savez comment, c'est tellement simple. Ah, oh, tu vois, un ministère extraordinaire. Non, je n'ai pas de film. Et ta femme sera très tellement extraordinaire. Oui, là, je suis obligé de dire oui, mais. Mais comprenons que quand même, ils sont tellement capables de. Voilà. De mettre plein de sucre autour de la cacahuète, quoi. Et dire, oh. Et puis après, vous réfléchissez à ça. Enfin, vous réfléchissez. Il ne faut pas y réfléchir, justement. Et faisons attention, parce que même dans nos milieux évangéliques, il y a des gens qui prennent ce statut-là. Et nous devons rejeter ce genre de mécanisme. Si auprès de quelqu'un, vous devez savoir quelque chose, c'est auprès du Seigneur. Amen. Amen. Et lui seul.
Amen.
Et c'est même encore plus pernicieux, parce que ce genre de pratique est à l'opposé de la parole de Dieu. Ecclésiaste, 2 Chroniques, 2 Théronome, je vous lis ce qui est écrit. Ecclésiaste chapitre 7, Dieu a fait l'un comme l'autre, parlant du bon comme du mauvais jour. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Donc ce verset-là nous montre bien que Dieu ne veut pas qu'on connaisse l'avenir. Justement, pardonnez-moi, il trouble un peu les cartes. Il permet qu'un jour, bon, on succède un mauvais, on succède un bon, mais de manière à ce que nous ne sachions pas ce qui va arriver. Pourquoi ? Mais pour mieux dépendre de Dieu. Parce que tous ceux qui aiment connaître l'avenir, c'est comme s'ils voulaient le maîtriser. Elle est où la dépendance à Dieu ? Moi, je veux louer le Seigneur dans le bon jour, comme dans le mauvais jour. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, mais dans tous les cas, je veux qu'aujourd'hui et demain, je m'attache au Seigneur plus que toute autre chose. Deux Chroniques, chapitre 33, verset 6. Il est parlé de ceux qui observaient les nuages, les serpents, pour en tirer des pronostics. Ils s'adonnaient à la magie, ils établissaient des gens. Ils établissaient des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Mais oui, on établit des gens qui prédisent l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Donc tous ces gens qui cherchent à établir des gens pour connaître l'avenir, Dieu est en opposition à ce genre de pratique-là. Même si c'est un soi-disant évangélique, un pasteur, un apôtre, quoi que ce soit, le titre ne change rien, la pratique est mauvaise. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer ton fils ou ta fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Nous condamnons ici, et vous le dites vous-même, il ne faut pas prier les morts, c'est pas bien, en fait derrière les morts ce sont les démons, la Bible dit, et nous avons raison. Mais soyons aussi fermes avec ceux qui veulent consulter Pierre, Paul, Jacques pour connaître l'avenir. Ah, t'as pas une vision pour moi ? T'as pas une révélation du Seigneur pour moi ? Mais c'est autant condamnable parce que nous savons que toutes ces choses-là nous emmènent sur le chemin de l'erreur. Paul, est-ce que vous croyez que Paul était un homme inspiré ? Un peu. On l'a vu d'ailleurs la semaine dernière. On avait même vu qu'il avait effectivement, afin de remplir ce rôle particulier, hein. On n'a pas eu le temps de bien... Déjà, la semaine dernière, c'était un peu technique, donc je n'ai pas voulu trop en mettre, mais il faut comprendre que l'apôtre Paul et les premiers apôtres avaient une mission très particulière quand même. Ils devaient amener le peuple juif qui, depuis des siècles, vivait dans des ordonnances, des principes religieux rigides, à une vie plus du tout fondée sur la loi. Donc il fallait vraiment que les gens qui parlent là, ils aient quelque chose de convaincant. Mais n'empêche que chaque fois que l'on parle de Paul et d'autres avec des révélations, c'était jamais des révélations personnelles. Ah, tu vas gagner au loto, tu vas changer de boulot, tu seras marié avec la plus belle des femmes, tu iras travailler à l'étranger. Ça n'a pas de sens. Toutes les fois qu'effectivement l'apôtre Paul et d'autres ont eu des révélations, l'apôtre Jean, c'était pour parler du peuple. D'où, mais on reprend en Proverbe 29, lorsqu'il n'y a plus de révélation dans le peuple, alors il est sans frein. Et nous verrons la prochaine fois les dons spirituels. Oui, Dieu est celui qui donne des orientations pour son peuple. Mais il n'est pas celui qui veut inspirer Pierre, Paul, Jacques, André, Jacqueline pour devenir des soi-disant médiateurs ou des médiums ou des prophètes évangéliques pour connaître l'avenir pour les gens. Ce n'est pas du tout spirituel. Devons-nous réclamer pour nous-mêmes des songes, des visions, des rêves ? Est-ce qu'on doit ? Seigneur, s'il te plaît, envoie-moi des songes, envoie-moi des rêves. En tout cas, nulle part dans la Bible, il nous est demandé de prier dans ce sens. Jamais. On ne voit pas ce genre de prière. Mais je dirais que... Alors, pour nous-mêmes, ok ? Donc je ne vous encourage pas à dire « Seigneur, envoie-moi un songe, envoie-moi un rêve » parce que ça peut être justement l'occasion de prendre le premier des rêves qui va venir comme étant la parole de Dieu. Un peu comme les gens qui disent « Ah, je ferme les yeux, Seigneur, quand je l'ouvre, tu me montres ma femme. Oh, c'est elle !» Non mais, il y a eu des catastrophes comme ça, hein. Non, j'ai regardé personne, je regardais la fenêtre là-haut, hein, exprès, pour que personne ne soit visé. Alors, on ne doit pas réclamer pour nous-mêmes des songes, des visions, des rêves, mais je pense qu'on peut prier pour que Dieu puisse se révéler par des songes, des visions et des rêves. J'étais tout jeune converti, je me suis converti en 1997. Et je me souviens que dans les années 2000, il y a eu tout un courant de prière qui s'est développé en faveur du monde musulman. On parlait beaucoup de la fenêtre 10-14 à l'époque. Pour les anciens, vous vous rappelez, hein ? Parce que c'était les longitudes de l'époque. Là, elles se sont vachement plus élargies maintenant, mais c'était 10 ? 10-40, merci. Et c'était une fenêtre où il y avait tous ces pays qui étaient fermés à l'évangile parce que c'était des pays musulmans très très rigides et on ne pouvait pas envoyer de missionnaires, on ne pouvait pas envoyer de Bible, on ne pouvait rien faire. Et donc il y avait eu un courant de prière qui se prolongeait et on priait pour qu'effectivement toutes ces forteresses de l'islam puissent tomber et que l'évangile puisse se propager. Et en 2010, je me suis réjoui. Alors, quand on ne peut pas envoyer de missionnaire, quand on ne peut pas envoyer de Bible. Mais je me souviens qu'on priait souvent, Seigneur, envoie des songes, envoie des rêves, révèle, manifeste-toi, sinon on ne peut pas rien. Vas-y, fais-le, comme tu as fait à Nebuchadnezzar et d'autres exemples. Et on s'est réjouis, parce qu'après, dans les années 2000-2010, on a eu beaucoup de témoignages d'hommes et de femmes, de musulmans, qui ont expérimenté des visions, des songes. Ils voyaient Jésus qui les a amenés à se convertir. Et aujourd'hui encore, dans les pays les plus fermés, il y a une multitude de gens qui se convertissent à Jésus. Ils gardent la barbe, ils gardent l'apparence d'hommes soumis à l'islam, mais leur cœur s'est tourné résolument vers Jésus, qu'ils ont vu en rêve, en vision, en songe, et ils cherchent à le connaître. Amen. Donc oui, je crois qu'il est bon de prier pour qu'effectivement il puisse y avoir des songes, des visions qui se manifestent. Peut-être même pour nos conjoints qui nous voient vivre, dont on n'est pas les mieux placés pour leur parler du Seigneur. Mais quelle grâce quand c'est eux-mêmes qui pourraient être interpellés par un songe, un rêve. Plus d'autres témoignages. Amen. J'ai aussi observé qu'effectivement, quelques amis que je pouvais avoir et qui étaient très attachés à l'observation de leurs propres songes. J'avais même un ami, c'est quasiment chaque matin, qu'il écrivait dans son petit cahier les différents songes et rêves qu'il avait. C'est là où je dis, on ne doit pas les réclamer, parce que comme le rappelle Ecclésiaste, il y a beaucoup de vanité dans les rêves. Alors, ne cherchons pas par nos prières en réclamant ça, à développer ses vanités, parce que de manière assez amusée, je m'apercevais que entre autres cet ami, mais d'autres, finissent eux-mêmes par un peu se demander si leur rêve il est vraiment à prendre au sérieux, quoi. Oui, ils ont rêvé, ça, y a pas de souci là-dessus, mais est-ce que c'était vraiment, et eux-mêmes finissaient par dire bah, je marque tout ça, mais je sais plus trop quoi en faire, quoi. C'est donc faisons attention. Laissons Dieu nous communiquer sa pensée. Amen. Par le moyen. Amen. Des rêves. Amen. Soyons disposés, et si un jour Dieu nous parle au travers de ces choses-là, ne fermons pas notre cœur, mais ne stimulons pas ce moyen. Ce n'est pas nécessaire. Dieu, s'il a quelque chose à nous dire, il le fera, mais ne le stimulons pas en étant trop subjectifs et risque à prendre notre source d'imagination pour parole de Dieu. Devons-nous, et ce sera la dernière question, devons-nous raconter nos songes, nos rêves? Alors, je vais avoir une réponse de Normand. C'est quoi la réponse de Normand? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Alors là, on va la changer. Je dirais certainement non. Mais pourquoi pas oui? Et l'ordre a de l'importance, parce que vous verrez, la prochaine fois, c'est l'inverse. Devons-nous raconter nos rêves, nos songes, nos visions? Je dirais non et oui. Non, parce que ce n'est pas la vocation. La première personne qui est concernée par ces ronges, par ces songes, c'est nous-mêmes.
Amen.
C'est nous-mêmes. On ne raconte pas toutes nos histoires de famille aux autres. On ne raconte pas toujours... Heureusement que le Seigneur vous parle par sa parole cette semaine, il vous a fait du bien. Alors, on ne va pas forcément raconter tout ce qu'il nous fait, mais quand même, et c'est là que je dis le oui. Par contre, il nous est tous arrivé de lire quelque chose, d'avoir fait une expérience avec le Seigneur et de prendre plaisir à en parler avec quelqu'un, n'est-ce pas? Mais là, c'est un temps de partage, vous voyez?
Amen.
C'est pas le Seigneur m'a fait révéler que cette nuit, regarde, Et là, on dit, ouais, tu y alors? Non, mais on partage. Et là, il y aurait deux critères à retenir. Si on a envie, si on a à cœur de partager nos rêves, et, enfin, rêves, nos visions, notre révélation, que ce soit déjà avec des gens convertis.
Amen.
Et que ce soit des gens spirituellement fiables,
oui,
matures,
oui.
Pour ne pas emmener certaines personnes à être peut-être troublées, étonnées. Parce que nous, le rêve, le songe que nous avons, déjà, il est là pour nous faire réfléchir. C'est que déjà, bien souvent, ce rêve et ce songe nous portent à l'interrogation, à la réflexion. C'est-à-dire que nous-mêmes, on n'a pas la claire interprétation de la chose. Parce que le but de Dieu, c'est justement de nous faire réfléchir.
Amen.
D'impliquer après notre vie de prière. Si, je sais pas, si je rêve que ma femme meurt, je vais lui dire quoi? Tu sais, chérie, tu vas mourir. Ça va pas être terrible. Si je vous dis, vous savez, le Seigneur m'a révélé que ma femme va mourir, l'angoisse qu'on va mettre dans l'église. Si le Seigneur me révèle une telle chose, je vais me tenir à la brèche. Amen. Je vais prier. Si c'est effectivement un avertissement du Seigneur, je vais prier pour que la chose n'arrive pas. Mais qui dit que ça arrivera ou que ça n'arrivera pas? Qu'importe. Donc d'un côté, je vais prier pour que la chose n'arrive pas, parce que je tiens à elle. Et de l'autre côté, si demain ça arrive, je prépare également mon cœur. Donc les songes, les visions sont des moyens pour nous préparer, pour notre piété personnelle. Imaginez qu'après, effectivement, ce songe, ce rêve, je le partage à n'importe qui. Ça va porter de la confusion. Imaginez que je dis ça à un inconverti. Ah, je vois, cette nuit j'ai rêvé, ma femme va mourir. Moi, dans ma piété personnelle, je prie pour que, effectivement, s'il y avait Dieu qui me prévenait qu'elle était en danger et qu'il fallait que j'intercède pour éviter que ça arrive, elle ne meurt pas. Il vient me dire quoi, l'inconverti? Mais tu m'as pas dit que ta femme devait mourir? Ça fait 5 ans que tu m'as dit ça, là. Non, mais c'est des réalités. Et imaginez qu'on dit ça à un chrétien, mais encore faible dans la foi. Il dit, waouh, c'est quoi ces visions? Mais c'est morbide. Non, mais... Donc, non. Par principe, ne partageons pas ce genre de choses. C'est pour nous. Prions, intercédons. Cherchons à rentrer dans la pensée de Dieu pour que, effectivement, quel que soit le sujet, nous soyons là, que la grâce de Dieu, que la volonté de Dieu s'accomplisse, que la gloire de Dieu se manifeste et que, effectivement, son nom soit glorifié. Toutefois, il peut être bon, effectivement, de partager avec quelqu'un de confiance, avec un chrétien avec qui on peut intercéder, prier. Si mon épouse est... J'ai ce rêve sur mon épouse... Alors oui, il y a de chances que j'appelle des frères, mais je sais qu'ils vont intercéder. Je sais qu'ils vont comprendre la direction de la prière. Peut-être que je n'en parlerai pas à mon épouse pour ne pas l'inquiéter. Mais je saurais me confier ça auprès, si j'avais un pasteur, de mon pasteur. Auprès peut-être d'un frère, d'une sœur, que je sais qu'il se tiendra dans le secret, dans la prière, dans l'intercession.
Amen, amen.
Et qui ne va pas appeler tout le reste de l'église pour communiquer. Donc oui, ça peut être bien aussi de partager quelque chose, si c'est un fardeau, si c'est quelque chose qui... Parce qu'effectivement, ça peut nous permettre, et on l'a vu, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes.
Amen.
Et l'église est là comme un garant, une sécurité. Et ça peut être bien de le partager avec son pasteur pour pouvoir avoir son avis, son appréciation. Ou avec des frères, des sœurs, qui eux aussi sauront soit confirmer la vision et prier avec nous, soit nous dire, bon, attends, tu sais ce que tu rêves? Bon, parce qu'on a tous l'esprit de Dieu, non? On a tous de la sagesse. Et donc, si nous partageons ces fardeaux avec des gens matures, spirituels, alors eux aussi, leurs conseils seront éclairés. Et ça nous permettra, effectivement, de trouver peut-être de la confirmation, ou plutôt tempérer nos visions. En conclusion, bénissons le Seigneur d'avoir un Dieu qui se plaît à nous parler.
Amen.
Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons pas garde. Demandons lui-même, demande pardon, Seigneur. Mais vraiment, bénissons le Seigneur d'avoir un Dieu qui se plaît à parler.
Amen.
Il y a des multitudes de gens qui ont des religions, qui croient, qui prient, ils font des efforts, mais ils n'ont aucun contact avec leur Dieu. Aucun. Louons le Seigneur d'avoir effectivement ce privilège et de pouvoir connaître ce Dieu qui nous parle et qui même dans notre sommeil est capable encore de nous parler. Bénissons le Seigneur parce que rien ne le limite, ni l'incrédulité des inconvertis, ni notre sommeil. Dieu est un Dieu qui aime parler. Alléluia. Bénissons le Seigneur de ce qu'il puisse, par ce moyen, nous stimuler à la prière, à l'intercession. Nous avons besoin d'intercesseurs. Nous avons besoin que le peuple de Dieu se mette à genoux.
Amen.
Non pas pour formuler toujours les mêmes prières, mais pour être divinement inspiré dans les directions spirituelles pour l'Église, pour le monde, pour l'intercession. Amen. Soyons spirituellement ouverts. Ne stimulons pas, ne rentrons pas chez nous. Seigneur, on va nous des songes, des visions. Mais sans forcément formuler la prière, que nous ayons une sainte jalousie de nous dire, Seigneur, tu as parlé hier à des multitudes au travers de ça. Pourquoi est-ce que tu ne pourras pas parler comme ça à mon mari qui est inconverti, à mes voisins? Seigneur, encore envoie. Seigneur, on veut vivre encore ça. Que nous soyons disposés, ouverts, spirituellement conscients que ce moyen des songes, des rêves et des visions est un moyen que Dieu emploie pour toucher les cœurs. Et peut-être même le nôtre. Amen.